Voilà, vous avez peut-être reconnu, c'est l'indicatif de FM+, autour du festival, du 35e festival Radio France Occitanie Montpellier. Alors, je vais vous dire directement ce que c'est. Il s'agit en fait de la fin du premier mouvement de la symphonie numéro 5 d'un compositeur estonien qui s'appelle Monsieur Tulin et que nous avons, Tubin, que nous avons la chance d'avoir écouté lors du premier concert où il y avait l'Orchestre Symphonique National d'Estonie dirigé par le célébrissime chef Nem Järvi. Voilà, donc la fin du premier mouvement. Il s'agit ici de l'orchestre de Bamberg dans l'enregistrement chez Bis qu'a fait monsieur Järvi. Voilà, donc nous allons nous retrouver 5 fois, le mardi et le vendredi de chaque semaine, donc en tout il y en aura 5. Le festival finit dans la semaine du 26 juillet et chaque fois que nous rencontrerons, lors de chacun de nos rendez-vous, nous aurions un certain nombre d'interprètes et croyez-moi, il y en a quelques-uns qui vont vous faire certainement plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par deux interprètes. Alors, c'est pas des interprètes, c'est des ensembles. Nous allons commencer par un ensemble qui s'appelle Les Ombres. Alors Les Ombres, vous le connaissez, on l'a déjà eu ici pendant 2 ans. Alors à l'opéra, il était en ensemble invité. Mais là, nous allons avoir que 2 instrumentistes. Nous aurons Margot Blanchard qui était à la viole de gamme et nous aurons Thierry Gomard qui est au vibraphone. Et tous les deux se sont réunis pour nous faire écouter du Marais Marais. Donc nous allons écouter uniquement Margot Blanchard à la viole de gamme qui va nous dire le pourquoi du comment de cet ensemble.
Monsieur Alarcon et la Capella Mediterranea, je suis continuiste et j'accompagne surtout les chanteurs. Et ici, avec le duo qui se produit au nom des ombres, avec Thierry Gomard, on expérimente un duo percussion, vibraphone et viol de gambe.
Alors, quelle idée ?
Thierry et moi, on a une vraie complicité qui s'est mise en place au sein des projets des ombres. Et on a constaté que les timbres de nos instruments étaient complémentaires. Et de mon côté, vis-à-vis de la musique de Marais Marais, j'ai eu de multiples stades de réflexion qui m'ont amené petit à petit à m'interroger sur Marais Marais le violiste, Marais Marais l'orchestrateur. Et si on se tourne vers le compositeur d'opéra, car il était compositeur d'opéra...
Frustré.
Vu le résultat, je trouve qu'il était plutôt accompli.
Oui, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait.
Ah oui, comme beaucoup de musiciens
de l'époque.
sous le surintendant de la musique, Lully. Mais en tout cas, je me suis intéressée de plus près à la suite d'un goût étranger du 4e livre, qui ce sont des pièces de caractère avec, des contextes, des atmosphères musicales différentes de ce qu'on peut voir dans les autres livres. Et je me suis dit, peut-être que dans ces pièces, Marais Marais, il est plus du côté de l'opéra. Ça m'a donné du coup envie de colorer différemment qu'avec juste le continuo traditionnel, théorbe, clavecin et viole basse, car normalement il y a même une viole qui accompagne. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire cette expérimentation, si c'est sur Marais Marais, sur la suite d'un goût étrange.
Alors ça peut ressembler un peu à ce que faisait Couperin autour de son clavecin, avec des titres un peu qu'on ne comprend pas toujours. Et là, votre cabinet de curiosité, c'est un peu ça aussi.
C'est vrai, c'est... En fait, on rentre un peu plus, je pense, dans l'intimité du compositeur. Et c'est vrai qu'avec François Couperin, on a l'impression d'être chez lui, d'être avec ses filles, d'être à la cour, d'être avec ses élèves. Et puis, on peut lire ses préfaces qui sont pas très littéraires, mais assez amusantes. Chez Marais Marais, il y a toujours une petite distance, par contre, je crois. C'est très didactique, sa manière d'écrire, un peu aussi comme François Couperin. Et... Il y a ces noms amusants comme le badinage qui en fa dièse mineur, quelle tonalité. Et donc badinage, mais plutôt badinage nostalgique. On a la marche tartare, alors qu'est-ce que c'était les tartares pour l'époque? Et puis on a ces petites marottes, comme dans Alcyone, il y a tout un tableau sur les marins, la matelote. Et bien moi, on va donner la matelote, la biscayenne, des pièces plus dansantes, mais qui font appel à tout cet imaginaire qu'on pouvait voir sur scène.
D'accord. Alors, c'est uniquement votre critère de choix des différents morceaux, le titre, puisque ça peut rappeler, ou il y a aussi la difficulté musicale ?
C'est l'intuition.
C'est tout.
Critère.
D'accord.
Parce que franchement, j'ai ouvert mes livres, J'ai choisi des pièces et c'est pratiquement à la pièce presse qu'on a sélectionnée lors de notre résidence à Narbonne, puisque c'est un programme coproduit par Radio France Narbonne et Les Ombres, la mairie de Narbonne. Et c'est vrai que j'étais surprise parce que je ne pensais pas que ce premier choix un peu instinctif soit le choix final. Et je pense qu'en fait, sans m'en rendre compte intérieurement, j'avais mûri quelque chose sur cette musique, puisque c'est une musique qu'on pratique depuis l'enfance quand on joue de la viole, et que j'étais arrivée au moment où j'avais envie de la restituer.
D'accord. Alors on va employer un gros mot. Il y a eu des moments où, pas très vieux, où il y a eu beaucoup de crossover à partir de la musique baroque ou, je sais pas, du Moyen-Âge, etc. Est-ce que vous vous situez un peu là ?
Ah, moi, je me situe dans le crossover de l'époque. Parce qu'en fait, c'était déjà du crossover. Ils adoraient marier les styles, plus ou moins officiellement, parce que c'était pas toujours de bon goût de dire qu'on aimait la musique italienne ou qu'on aimait la musique espagnole. Mais Maramarais faisait partie de ces musiciens, je pense, qui avaient les oreilles, les yeux, qui étaient gourmands de toutes les créativités musicales et surtout qui mettaient au service de l'expressivité immense de la viole.
Oui. Alors, on sait que vous avez travaillé avec Saval, Pandolfo, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Antai. Comment ils jugeraient
C'est joliment dit comme
Antai.
Ça.
Antai. Antai. Eh ben oui, je suis pas du Nord. Alors, comment, ils, à votre avis, ils peuvent voir cette approche de la musique baroque, tous ces gens-là?
Je pense que, en tout cas, dans tout mon parcours, les musiciens que j'ai croisés étaient des musiciens polyvalents, avec un goût pour quand même l'éclectisme, qui n'ont jamais bridé une certaine idée de liberté d'interprétation. Donc du moment qu'on est dans une démarche sincère, et je pense qu'avec Thierry à mes côtés, ça ne peut être que le cas. Et je pense aussi qu'il y a toujours cette idée de complémentarité, quand on fait un duo, de chercher cette complémentarité et de chercher à une certaine distorsion du rôle de la viole. Oui, il y a la viole qui rappelle la cour, qui est un peu protocolaire presque, mais il y a aussi la viole émotion qu'on peut amener partout. Et justement, je pense que, quelle que soit la génération, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'amener la viole partout. Les compositeurs actuels s'y intéressent et c'est ça qui est merveilleux.
Ersan, par exemple.
Ersan, par exemple. Ou récemment, j'ai fait une commande à Gérard Pesson.
Voilà.
Voilà. Je pense qu'il y a un réel intérêt et un goût pour cet instrument qui n'aurait pas dû disparaître.
Et le côté improvisation. Alors, on sait que les baroqueux savent faire ça. On sait qu'en général, les musiciens qu'on qualifiera de classiques, ils sont assez bloqués dessus. Et là, vous avez un percussionniste qui fait beaucoup de jazz et de musique improvisée. Alors, comment arriver à marier deux époques, deux styles totalement différents ?
Bah, toujours pareil. Je vous ramène toujours à la même question qu'en fait, c'est pas différent. En fait, je pense qu'il faut enlever toutes les frontières temporelles, parce qu'en musique, il n'y en a pas vraiment. Il y a des métamorphoses qui sont très progressives. Après, il y a des gens qui ont tranché avec leur époque, qui ont été extrêmement novateurs, comme en peinture, comme en sculpture. Mais les choses avaient un peu maturé, elles ne sont pas arrivées pour rien. Donc, en fait, l'improvisation, les musiciens de l'époque Renaissance, Baroque et bien d'autres, médiévales, étaient avant tout des joueurs ou des chanteurs. Ils avaient une formation très complète. Puis, ils se mettaient à écrire. Et écrire, ça pouvait être improvisé pendant 3 heures et à la fin, écrire un petit menuet sur ces 3 heures d'improvisation ou une fugue. Donc, en fait, l'improvisation était au cœur du processus. C'est nous, notre situation d'interprète aujourd'hui, qui est étrange, qui est en dehors du processus de création et on doit réinventer une nouvelle strate de création. En fait, il y a aussi des traités qui...
440 au milieu, et puis je pose
pas
la question.
Pour, alors, pour le diapason, on s'est mis à 442, puisque c'est le diapason du vibraphone, donc je vais essayer de m'accorder avec lui.
Il vaut mieux.
Mais pour le tempérament, en fait, on retrouve dans certains traités que les instruments frettés, comme le théorbe, l'archilute, étaient plutôt accordés en égal. Donc dans ce sens-là, je suis assez proche en fait, de l'accord du vibraphone. Pour cette musique, c'est... et surtout en la jouant seule et pas avec un clavecin par exemple, c'est pas gênant que je sois plutôt dans un tempérament égal.
Alors qui est le dessus et qui est la basse continue?
Eh bien ça change.
Je m'en doute.
Ça change. C'est vraiment un dialogue des voix. Après... ce que j'espère, c'est que le public pourra reconnaître certaines pièces, et même s'il n'en reconnaît pas, justement, les découvrir à nouveau.
D'accord. Alors, c'est qu'il y a quelques temps, ça, vous avez fait un programme autour de Hume, et là, vous faites un programme donc autour de Marais-Marais. Vous aimez comme ça, vous promener un peu, prendre des sentiers non standards?
Oh, alors Hume et Marais-Marais, je reste quand même dans le répertoire pour
Violon seul. Oui, mais bon, chaque fois, vous les glissez ailleurs.
Oui, c'est vrai. C'est plutôt une histoire d'opportunité et de rencontre qu'un véritable choix où je me dis, tiens, j'ai pas envie de les faire de manière orthodoxe. J'adore aussi faire les choses dans les règles de l'art, dans les dorures, être à Versailles... peut-être pas mettre un costume, ça c'est pas trop mon trip, mais j'aime quand même être dans cet univers de clair-obscur et de concert à la bougie. C'est l'occasion, quand on rencontre un musicien comme Thierry, c'est juste l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau.
Ouais, ça demande quand même du travail, je veux dire, combien de temps vous avez mis pour le monter ce programme?
Une longue gestation, ça fait plus d'un an qu'on en parle, qu'on s'est envoyé des extraits, des vidéos, des extraits audio, pour en fait finalement, en une petite semaine à Narbonne, monter cette première forme. Donc on la donne en forme concert, mais on aimerait à terme en donner une forme un peu plus scénique, peut-être avec quelques agréments visuels.
D'accord, et vous avez pensé l'enregistrer ?
C'est fort probable, c'est fort probable.
À part,
si nos câbles fonctionnent, parce que là on a des problèmes de câbles, mais oui, c'est dans l'idée, on aimerait beaucoup, beaucoup l'enregistrer.
Bon, France Musique va vous enregistrer, je suppose, de toute façon, non ?
Pardon ?
France Musique vous enregistre de toute façon.
Pas, parce que nous faisons partie des concerts en région, délocalisés.
Oui, parce que j'ai pas vu de camion.
En tout cas, pas pour ces concerts-là, mais ça viendra.
D'accord. Alors à la suite donc de ce concert, de ces quatre concerts. Qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? À l'Arconne? Pas à l'Arconne?
Non, pas à l'Arconne tout de suite. Je continue à Uzès avec Les Ombres, où on donne une académie de musique ancienne et on donne quatre concerts autour de Leclerc, Vivaldi, Handel, Telemann, Boccherini. Ça, j'en serai pas. C'est Sylvain Sartre qui co-dirige Les Ombres avec moi, qui donnera ce concert Boccherini. Il y aura aussi Théotime Langlois de Swart au violon qui fera des concertos.
Boccherini, il y a beaucoup de gammes chez Boccherini.
Boccherini, ils vont faire des quintettes pour flûte traversière et des quintettes pour guitare. Donc, quatuor à cordes plus flûte ou quatuor à cordes plus guitare.
Voilà, donc vous allez regarder.
Ah oui, moi je vais complètement regarder. Il voilà, n'y a pas de gambe. Il n'y a
voilà,
pas de viol de gambe.
C'est bien ce qui me semblait. Parce que pour Handel, il y a tout un débat aussi, viol de gamme ou pas viol de gamme. Mais bon,
ouais,
là...
bon moi je dis qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, si on a envie d'en jouer.
Oui, oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Mais bon, Boccherini, c'est quand même plus.
C'est plus tardif.
C'est plus tardif. Voilà.
Et ensuite, effectivement, j'accompagnerai Mariana Flores, donc l'épouse de Monsieur Alarcón, avec l'équipe de la Méditerranée au BBC Prom à Londres fin juillet.
D'accord. Il n'y a pas d'Ambronay de prévu?
Ah, Ambronay, c'est plus tard, c'est septembre-octobre. Alors, pas cette saison, mais il y a des choses à venir avec.
Vous n'êtes pas dans le déluge?
Ah, le déluge, si, il y a le déluge, effectivement, le 5 octobre.
Voilà.
La 51e du déluge universel.
C'est un chef-d'œuvre absolu, ce truc. Hein.
Ah, bah oui, en tout cas, le public ne.
Ah, oui, oui, il y a des passages hallucinants.
Ne désentend pas.
Ouais. Bon, donc, et des quelques CD en sortie prévues?
Alors, les disques, on a sorti un disque cette année autour de François Couperin, Les Leçons de Ténèbres, avec aussi une création, on a fait une commande à Gérard Pesson qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'enregistrer. Et pour les prochains disques, on aimerait faire un disque autour des concerts que le fils Bar et Abel donnaient à Londres. La Bar Abel Society, c'était les premiers concerts avec abonnement. C'est de la musique assez... je dirais assez cup of tea, mais très très agréable, qu'on joue avec Justin Taylor et Théotime Langlois de Swart et Sylvain Sartre, toujours à la flûte.
D'accord. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, vous venez donc d'écouter Marco Blanchard, et puis vous avez entendu de loin le vibraphone de Thierry Gomard, qui est en train de, j'ose pas dire de s'accorder, mais d'essayer de rebrancher tous ses instruments. Et nous allons passer à la deuxième présentation de concert pour cette émission. C'est le trio SR9. Alors, le trio SR9, c'est un trio de marimba. Voilà, c'est pas courant. Et ce trio de marimba, tout comme les ombres, vont donner tout un tas de concerts. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et j'ai eu la chance d'interviewer les trois marimbassistes, je sais pas comment il faut dire, les trois musiciens. Paul, Nicolas et Alexandre, ils ont voulu que je les appelle comme ça. Je les appellerai comme ça. Et donc, eux, ils font des transcriptions de Forqueray, de Handel, de Bach, de Rameau, de Debussy. C'est leur dernier CD qui a été fait comme ça. Et donc, ils ont fait le concert avec le même titre. Donc, voici le trio SR9. Alors, le trio SR9. Alors, premièrement, c'est quoi SR9? Le nom de vos machines, quelque chose d'autre, c'est quoi?
SR9, c'est donc pour Square Root 9, donc racine carrée de 9 en anglais.
Ça fait 3.
On est un trio.
Parce que j'ai trouvé nulle part, j'ai cherché partout. Hein.
Ah ouais?
Ah, j'ai pas trouvé, sur votre site, je n'ai pas trouvé cité quelque part.
Ah, c'est qu'on laisse un peu de suspense, c'est pour que les gens nous posent la question justement.
Voilà, j'ai compris. Donc devant nous avons Alexandre, Nicolas et Paul. Alors tous les trois, vous jouez le même instrument total?
Oui, on joue tous les trois. On a tous les trois un marimba 5 octaves devant nous.
Ouais.
Et on est installé en U. Et voilà, on a chacun un rôle particulier dans le trio, c'est-à-dire qu'Alexandre joue la voix soprane. Nicolas, d'accord, joue la voix médium et je joue la basse.
D'accord. Et c'est ni variatour, c'est comme ça et ça ne change pas.
Ça change.
Alors comment vous avez choisi votre position, donc, Nicolas?
Eh bien, c'est parce qu'on a essayé plusieurs possibilités. Et puis Paul sentait bien au basse, donc il est vraiment au centre de la scène. Et avec Alexandre, on fait comme la stéréo. Voilà, on est les aigus et les médiums. Qui se répondent un peu entre deux face au public.
Et vous avez la position habituelle d'un trio, d'un quatuor, c'est-à-dire où vous avez une position standard autre?
Quel Alexandre. Trio?
Ce trio basique à cordes ou quelque chose comme ça.
Je ne sais pas exactement comment ils sont positionnés.
On met pas la basse au... Nous, on met la basse au centre pour.
Oui, voilà, c'est pas ça. En général, elle est à droite ou à gauche.
Ça, ouais. Ouais,
c'est ça.
Nous. On a préféré la mettre au centre.
Mais... Voilà, ça crée une spatialisation vraiment. Donc quand je parlais de stéréo, c'est vraiment que souvent on joue les thèmes avec Alexandre, donc les thèmes aigus et les thèmes médiums, et donc on se les passe entre nous, ce qui fait que les gens ont soit le thème à gauche, soit le thème à droite, et les basses au centre.
D'accord. Alors tous les trois, dont Alexandre Aspéré, on peut dire votre nom quand même, Nicolas Cousin et Jean-Paul Changarnier, vous êtes rencontrés au Conservatoire National Supérieur de Lyon, c'est ça? Pas du tout.
Si,
je vois le rire, donc je sens que j'ai dit une bêtise.
Ce sera juste Paul pour moi.
Ah, pardon, Paul. Il n'y a pas à dire. D'accord, Paul.
C'était mon arrière-grand-père.
Ah, d'accord. Bon, c'est un autre problème, d'accord. Donc on reste avec les prénoms. On reste avec les prénoms.
Mais on s'est bien rencontrés au Conservatoire National Supérieur de Lyon. C'est là où on faisait nos études dans la classe de percussion, donc, hein, parce qu'on est vraiment. On joue un peu tous les instruments de percussion. Et c'était il y a bientôt 10 ans.
Ouais.
Et voilà, et depuis, on ne s'est pas quitté. Et on parcourt la France et l'étranger ensemble.
Mais vous êtes exclusivement trio ou vous faites quand même des concerts indépendamment chacun de votre côté?
On a aussi des projets. Le trio, c'est notre activité principale, mais on a aussi des projets à côté pour s'enrichir et enrichir le trio a posteriori.
D'accord. Alors donc c'est les trois barbus, on vous l'a fait celle-là je suppose par contre.
Jamais.
On ne l'a jamais fait.
si. On n'y échappe pas en général.
Oui voilà, pardon. Alors j'ai vu aussi que vous avez eu des prix. Des prix de
ouais, on fait souvent des prix.
Ouais.
Ouais.
C'est important pour vous les prix?
C'est très important, ouais. Ouais. Un bon prix c'est toujours...
Un bon prix,
ouais. Ouais, voilà.
Non mais dépendamment de ça, des prix, vous avez eu des prix.
Oui, alors on a eu la chance de gagner un concours international en 2012 au Luxembourg, où on a eu plusieurs prix, dont le premier prix évidemment. Et s'en est suivi le prix de la FNAPEC aussi, où on était voilà, lauréat la même année, en 2012. Et puis après, on s'est lancé sur les routes, on a fait voilà, plusieurs programmations différentes de concerts et de spectacles. Et depuis, on tourne avec tout cela.
D'accord. Alors Paul, pourquoi les marimbas? Parce qu'il y a d'autres instruments de percussion que diable.
Mais le marimba, c'est l'instrument qui, pour nous, est le plus riche harmoniquement et mélodiquement, qui nous permet vraiment de jouer tous les répertoires qu'on aura envie de transcrire.
D'accord. Et par exemple, faire un mélange marimba ou je ne sais pas quoi d'autre, non, les trois marimbas d'entrée, ça s'est imposé
justement,
pour
c'est pour travailler comme un trio à cordes, par exemple, qui joue que avec la même couleur instrumentale. Nous, on a voulu travailler sur le bois, justement mélanger, travailler sur le mélange des couleurs juste avec le bois.
D'accord. Et alors, vous m'avez dit le nom de votre instrument, dont je ne me rappelle plus déjà, mais vous l'avez choisi pertinemment ou c'est un peu votre instrument, je veux dire, le marimba, je ne sais plus quel numéro il a, vous l'avez choisi comment?
En fait, on a fermé les yeux et on a choisi dans la salle de percussion lequel. Non, le marimba, donc c'est l'instrument qu'on a l'habitude de jouer. On l'a choisi justement parce que dans les percussions, il y a beaucoup d'instruments, mais celui-là, il permet beaucoup de choses. Il permet de transcrire beaucoup de répertoires très différents en fonction des époques, en fonction des styles. C'est un instrument qui est de plus en plus présent aujourd'hui en France. On l'entend à la radio, on le voit à la télé. Il est joué dans tous les styles musicaux. Et donc, voilà, on voulait le mettre en avant aussi aux yeux du grand public parce qu'il est encore très peu connu.
Alors, les transcriptions, qui est le transcripteur? C'est un coup l'un, un coup l'autre, ou c'est toujours le même?
C'est plutôt collégial, ouais. Alors après, quand il y a un gros travail de transcription, il y en a un qui s'y colle en amont, et après, on termine le travail ensemble, mais c'est plutôt collégial, ouais.
Ouais. Alors, comment faites-vous d'un point de vue pratique, Nicolas?
D'un point de vue pratique, on expérimente. Ah bah alors, on choisit déjà l'œuvre ensemble. Après, si l'œuvre est... Par exemple, là, dans le programme qu'on joue, on joue une pièce qui est pour orchestre à la base. Donc, c'est les danses poloviennes d'Alexandre Borodine. Et une pièce pour orchestre, c'est lourd en termes d'instrumentation. Donc, il faut beaucoup réduire pour en arriver à une pièce pour trois marimbas. Donc, il y a un premier travail qui est fait en amont. Et après, c'est vraiment de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on arrive avec des bouts de partition, des idées. On les partage et on compose ensemble pour essayer de trouver la meilleure solution, le meilleur arrangement possible, nous trois. Donc, c'est beaucoup de travail, évidemment, avant d'arriver sur scène devant le public.
D'accord. Parce que moi, qui ne suis pas un joueur de marimba, c'est quoi la partition, c'est quoi de base une marimba? C'est une seule ligne ou il y a plusieurs lignes?
Alors, en général, ça se rapproche de l'écriture pour le piano. Donc on essaye d'avoir que deux portées, voire une seule portée. Donc, c'est souvent une clé de sol et une clé de fa. Et si on peut, c'est que une clé de sol et que une clé de fa.
D'accord. Et après, c'est à vous de le ventiler selon ce que vous avez envie de faire.
Tout à fait. Ça dépend vraiment du répertoire qu'on joue.
Alors, vous avez enregistré 2 CD chez Naïve. Il me semble qu'il y en a peut-être d'autres qui sont entrés. J'ai vu sur votre site qu'il y avait attrapé d'autres choses. Et alors, donc, le premier CD, c'est du Bach.
Tout à fait.
Alors, j'ai l'impression, je peux me tromper, qu'en général, quand on est avec des instruments ou des instrumentistes qui ont transcrit, Bach, c'est incontournable.
Eh oui, parce que c'est un des compositeurs les plus universels, on va dire. Il a énormément écrit déjà. C'est un exemple pour chacun, quelles que soient les époques. Tout le monde lui a rendu hommage. Et aujourd'hui, en tant que musicien, transcrire Bach, c'est quelque part finalement assez naturel. Lui-même, il considérait pas forcément qu'il écrivait pour un instrument particulier. Il laissait ouvert la possibilité.
Pour clavier.
Pour clavier, voilà. Et justement, oui, sans préciser pour autant. Voilà, il était d'ailleurs très friand de découvrir de nouveaux instruments à son époque. Donc je pense que s'il avait rencontré le marimba, on aurait peut-être eu...
Il n'y a pas de doute. Hein. Yes. Pour moi. Hein. Et votre concert de ce soir, c'est plutôt le deuxième CD.
Oui, c'est ça, c'est des danses. En fait, on s'est intéressé exclusivement aux musiques de danse. Donc ça traverse les époques, c'est très... Il y a beaucoup de mouvements, c'est très varié. Et vu que le marimba, c'est un instrument très gestuel, c'est très sympa à voir en vrai, en live, parce qu'on bouge, il y a 4 baguettes.
J'ai envie de dire toutes les percussions, c'est toujours impressionnant.
Globalement, ouais, ouais. Ça engage le corps dans son entièreté, donc ça demande de se déplacer. Voilà, il y a tout un aspect visuel qui est hyper important, mais bien sûr, les CD sont à écouter avec grand plaisir aussi.
Voilà. Autre chose à dire ?
Non.
Il commence à s'endormir, là. Il faut couper. Donc, alors, le programme, comment vous l'avez organisé, celui-là ? C'est le même ordre que le CD ou changez un peu ?
C'est le même ordre que le disque, sauf que pour le concert, on ne joue pas le fil conducteur qu'il y a dans le disque, à savoir les danses de travers d'Eric Satie.
Voilà.
Pour le concert, on fait plutôt des pauses où on explique justement l'histoire du marimba et le programme qu'on...
Allez, dites-nous l'histoire du marimba, allez. En quelques mots.
En quelques mots, le marimba, il vient d'Afrique. C'est un cousin du balafon qui a ensuite beaucoup voyagé en Amérique centrale, en Guatemala, en Colombie, au Mexique. Puis il est aux États-Unis, il est parti. Et puis après, on l'a retrouvé en Asie et en Europe, au milieu du XXe siècle. Donc c'est vraiment très récent par rapport à l'histoire de la musique.
Alors c'est plutôt classé jazz, le marimba, ou plutôt musique, entre guillemets, contemporaine, percussion ? Hop, on va voir s'il s'est réveillé.
C'est pas trop classé jazz, le marimba. Autant le vibraphone, ouais, mais les marimbistes jazz, il n'y a pas trop. Du coup, c'est pas classique non plus, puisqu'il n'y avait pas de répertoire, donc ce serait plutôt contemporain.
D'accord.
Voilà. Mais les premiers qui ont écrit pour marimba, c'est Boulez, Messiaen, c'est les compositeurs qu'on qualifie encore de contemporains. Mais...
Mio. Moi, je me rappelle d'un concerto qui s'appelle les 17 ou 19 stations de Constant. Il y a une marimba dedans ?
Marius
Constant, ah, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas, je l'ai vu il y a tellement longtemps, c'était Drouet qui jouait. C'est tellement vieux que je ne me rappelle pas.
C'est bien possible, Jean-Pierre.
Parce que c'était chaque mouvement, c'est le percussionniste qui s'arrête devant un ensemble de percussions, qui joue des choses plutôt difficiles quand même. Et puis petit à petit, il évolue comme ça. Moi, je trouvais que c'était remarquable. Mais il y avait aussi peut-être un peu d'improvisation. Ça vous dit quelque chose, l'improvisation, avec les marimbas ?
De toute façon, le marimba, on peut vraiment, comme je disais, le jouer dans tous les styles musicaux, donc l'improvisation, ça s'y prête totalement. Là, c'est parce que nous, on fait dans le programme, mais c'est vraiment un instrument qui peut se trouver dans plein de contextes différents.
Voilà, vous venez donc d'écouter les 3 interprètes du trio SR9, Paul, Nicolas et Alexandre, que vous allez pouvoir réécouter. Alors, donc mercredi, jeudi, c'est pas la peine d'en parler, on l'a déjà vu. Vendredi, vous pourrez aller les écouter à l'église des Dominicains à Perpignan, ainsi que les Ombres également. Nous pouvons les retrouver samedi 13, nous trouverons les Ombres à Agnan et SR9 à Allègre-les-Fumades. Et en fait, là nous étions à samedi et dimanche, le 14 juillet, tous les deux vous pourrez les retrouver à Bédarieux pour SR9. Et ensuite, vous pouvez retrouver encore SR9 à Castelnau le lundi 15 et après nous nous retrouverons pour en rediscuter. Alors ensuite, donc, les concerts un peu plus importants. Donc, nous allons prendre ce soir, vendredi 12, vous pourrez écouter eh bien, le fils Jarvi Christian qui va nous jouer du Rotawawa. C'est ce qu'on écoute là. C'est des oiseaux qui ont été enregistrés et c'est très beau comme œuvre. Vous allez pouvoir l'écouter. Il y aura du Part, du Vasque, du Richter, du Stravinsky et du Jarvi. À Toulouse, vous avez aussi un concert. L'orchestre de Toulouse dirigé par Sokiev qui fera du Berlioz et du Bizet. Samedi 13, vous pourrez écouter Anaïs Bertrand, dont nous écouterons une interview la semaine prochaine, dans du Mazzocchi, du Corelli, du Scarlatti et autres. Et à Montpellier, les tableaux d'exposition, Bertrand Chamaillou, ça s'appelle le tableau d'exposition globalement, David Guerrier, l'orchestre de Toulouse est dirigé par Sokiev. Et également, dimanche, vous pourrez réécouter eh bien, le Mozart suédois à l'Opéra Comédie. C'est le concert de la loge dirigé par Julien Chauvin. Voilà, on ne peut pas tout parler, on ne peut pas parler de tout. Il y a tellement de choses. Et peut-être, oui, quand même, lundi 15, il y aura Guidon Kremer. Et puis, je peux vous le dire, nous aurons Guidon Kremer, l'immense violoniste, à ce micro, si tout se passe bien. Voilà, je remercie Stéphane à la technique et je vous dis à mardi.